Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe. Sur Jet FM 91.2, le lundi, une fois tous les deux mois, à 13h05, 45 minutes pour découvrir l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain. On se retrouve aujourd'hui pour partir à la découverte d'un lieu situé dans la région des Pays de la Loire. Piacé le Radio, un centre d'art dédié à l'architecture, au design et à l'art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé, entre Le Mans et Alençon. C'est un petit village de la Sarthe qui a fait l'objet dans les années 1930 d'un projet architectural de Le Corbusier et Norbert Bézard. Piacé le Radio offre trois espaces d'exposition pouvant accueillir différents types de manifestations. Des expositions, des concerts, des conférences, des lectures. La programmation événementielle est rythmée par deux types de rendez-vous. La quinzaine radieuse, qui croise les pratiques architecture, art contemporain et design, et les capsules radieuses, expositions temporaires, lectures, concerts, tout au long de l'année. En ce moment, c'est la 13e édition de la quinzaine radieuse, à découvrir jusqu'au 17 octobre. Elle sera clôturée par les journées de l'architecture, qui auront lieu le week-end du 16 et 17 octobre 2021. Le parcours proposé présente les œuvres de Benedetto Pufalino, J.B. Maneval, Georges Candilis et Anja Blomstedt, Christian Rajot, Marussia Rebeck, sous la bannière d'Andrea Cruz, Zrike Morisseau, Marc Léchelier, Caroline Mesquita, Olivier Vadreau, Louis Lepère et MC Salo. On peut visiter le parcours le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h. On vous emmène à la rencontre de ceux qui ont créé et qui font vivre ce lieu, et des artistes qui participent à la 13e édition de la quinzaine radieuse. Allez, c'est parti!
Donc, qu'est-ce qu'on fait ici à Piacé ? Donc, ça s'appelle Piacé le Radio Bézard le Corbusier. Donc, oui, le projet, c'est un projet d'architecture, une utopie non construite de Bézard le Corbusier pour les campagnes, de fermes radieuses et de villages coopératifs, dont il existe une exposition, un espace consacré à ce projet. Maintenant, on fait partie aussi d'un itinéraire européen des sites Le Corbusier. Seul site non construit, mais important pour les campagnes. Et l'idée, c'était d'inviter des artistes, des designers, des architectes à réfléchir aussi à la ruralité ou une certaine modernité pour ces campagnes. Il y a un parcours d'œuvres qui s'est créé assez vite pour aller sur les traces de cette utopie comme ça dans le village. Il y a plus de 40 œuvres maintenant qui sont sur le territoire, enfin qui dépassent un peu du village. Pas mal de micro-architecture, des pièces relatives à l'architecture, à l'art contemporain et au design, encore une fois, mêlant ces trois disciplines. Et puis à l'année, il y a trois expositions, une au printemps, une en été et une en automne. Donc là, depuis 2 ans, ça s'est un petit peu décalé. La quinzaine radieuse, qui était un événement plus important, qui occupait un peu le village, était en juin, maintenant on le fait en septembre. Alors les expositions, c'est très variable, monographique ou collective. Donc le projet Le Corbusier, c'est un projet de 1930, hein, non construit, qui était assez méconnu. Et moi, je suis revenu ici à Piacé, j'avais des racines, mon grand-père vivait ici. J'ai racheté le moulin avec mon frère, on l'a racheté à la commune. Et l'idée, c'était d'en faire un lieu culturel, de faire revivre ce projet de Le Corbusier. J'étais un peu au courant, donc je me suis mis à enquêter, à rechercher différentes choses, qui était la fondation Le Corbusier, la famille de Bézard, où il y avait des céramiques, différentes choses. Et on a écrit une exposition, petit à petit, ça s'est agrandi. Maintenant, donc, il y a un espace, il y a un patrimoine derrière, c'est-à-dire que c'est pas poser des œuvres d'art sur le territoire comme ça pour que ça ait du sens. Je pense que ça en a comme ça, c'est parce qu'il y a eu ce projet et c'est un peu aussi de poser des différentes choses modernes comme ça dans la campagne, sur le territoire. Très vite, j'ai créé cette association pour pouvoir aussi montrer d'autres choses, pouvoir activer ce projet. L'idée, c'était pas de le muséifier, c'était aussi de l'activer. C'est un projet coopératif, mutualiste. Donc voilà, en invitant des artistes, en faisant des expositions, il y a eu aussi des concerts, voilà, différentes choses. Donc l'asso, ça fait que 13 ans en fait qu'elle existe. Je m'occupe un peu de tout, c'est vrai que je suis un peu le couteau suisse, un peu comme Bézard, qui était pas paysan, hein, qui était militant paysan, mais qui a été fossoyeur, apiculteur, qui a fait tous les métiers. Alors c'est vrai que des fois, ici, je me sens un peu la réincarnation dans le sens où où je vais essayer de faire bouger le village, en tout cas, d'amener cette modernité, des choses différentes, une curiosité, entre restaurer les lieux, monter des pièces, travailler avec des artistes. Il y a plusieurs lieux sur le site, hein, le moulin, l'espace Bézard-le-Corbusier, une maison qu'on appelle la maison oblique ou Parent, où il y a une installation de l'architecte Claude Parent, puis qui accueille une peinture sur le pignon, et un nouveau lieu qui était une ancienne boucherie, le cube d'or, voilà, avec une vitrine, en tout cas une vue sur la départementale, une visibilité, et un jardin. Puis après, il y a des adhérents, il y a une centaine d'adhérents. Je suis le directeur artistique aussi, c'est moi qui m'occupe de la programmation. Alors tout ça se fait avec les moyens qu'on a, on est aidé, mais c'est un projet quand même important. Ça avance aussi, ça se fait sur les rencontres des fois, avec des artistes, avec... là, il y a une nouvelle pièce que je vois, un Hexacube qui est une architecture, c'est avec un collectionneur, un marchand, ayant une collection d'architecture, ça vient compléter. Donc c'est des rencontres, à un moment elles arrivent, là elle est montrée dans son jus, on va la restaurer après. On avance aussi avec nos moyens financiers et humains, quoi. Donc c'est très différent, mais il y a quand même une programmation. Ouais.
Du coup, vous êtes un peu à la croisée des pratiques entre... Il y a quand même une base beaucoup autour de l'architecture, mais finalement, vous essayez de faire des ponts entre architecture, art visuel, art contemporain, si vous voulez mettre des noms, mais...
Ouais, totalement. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal d'architecture là, mais ça prend pas le dessus quand on retrouve dans le parcours des œuvres. Puis quand on est dans l'espace public ou quand on installe de l'architecture ou quand il y a une œuvre dans l'espace public, on parle aussi pas d'architecture, mais en tout cas de comment poser quelque chose dans l'espace, comment le voir par rapport à un patrimoine, par rapport à un paysage. Donc tout ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a ce mélange, quoi. Après, si on prend le mobilier urbain de la commune, il est aussi dessiné par Enzo Marie. La commune avait accepté de le refaire. Avec, voilà, c'est du Douglas, une série d'à côté, c'est pas le mobilier urbain qu'on retrouve dans les catalogues, c'est aussi une œuvre quelque part. Voilà, ouais, moi ce mélange m'intéresse et m'a toujours intéressé parce que j'ai fait les arts déco en mobilier, ça s'appelait mobilier à l'époque, pas design, et j'avais une pratique avant picturale, je peignais, donc j'ai toujours un peu mélangé les choses, et ce que je trouve assez chouette, et de faire un projet comme ça dans un petit bourg de 300 habitants, 350, mais il y a différentes entrées, quoi, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir des espaces muséales, entre guillemets, un centre d'interprétation, quelque chose qui ressemble à une galerie. On peut autant passer de pièces architecturales qu'à des pièces d'art contemporain, des pièces un peu plus faciles d'accès, un peu plus dures. Enfin voilà, il y a ce mélange. On peut tout se permettre, quoi. C'est pas une programmation essentiellement d'art contemporain. Voilà, il y a toujours ce mélange. Des fois, il y a des artistes qui font ces ponts entre architecture, art. Enfin voilà, je pense que ça me correspond aussi parce que j'ai toujours mélangé. Si je regarde la pièce où on est, c'est moi qui refais avec des matériaux. J'essaie de trouver des solutions économiques. Je mets aussi dans la peau d'un designer, d'un artiste. Voilà, avec mon vécu, et c'est vrai que certainement dans les choix, ça se ressent.
Et donc cette année, pour la quinzaine radieuse, 13e édition, c'est ça ?
C'est la 13e, ouais.
Donc il y a qui est présenté ?
On a devant nous une pièce de Georges Candelis, qui était... Il y a des artistes vivants, hein, mais c'était un architecte qui a travaillé avec Le Corbusier d'ailleurs. Et là, on a une architecture de loisirs, une architecture modulaire, un hexacube qui était fait pour Port-le-Cat, que Clément Cividino, un galeriste, a remis en lumière, et aussi le mobilier de Georges Candelis, qui l'a sauvé d'ailleurs, hein, qui a sauvé cette architecture. Donc maintenant, pareil, qu'ils deviennent un peu des pièces de collection ou des pièces qui sont montrées dans des expos autour de l'habitat de loisirs, de la beauté modulaire, hein, avant qu'on en reparle en ce moment. Avec ces années 70, la résine, le plastique, qui permettaient des formes et de faire ces objets, mais c'est des architectures. Donc voilà, on présente un Hexacube de Candelis qui vient compléter un peu notre collection de pièces des années 70. Et on a trois bulles six-coques, une penta derrière, un tétrodon de la UA. Derrière, on a un sas gonflable de Christian Rago, qui est un designer, un monsieur qui est né en 1933. Il a fait don à l'assaut de ce sas, qui est pour vivre l'expérience de la naissance. On rentre dans un sas gonflable avec un espace intérieur et on ressort par derrière pour aller dans l'espace ou comme une naissance, qui est dans le parc derrière, hein, confronté au bulsicoque, et à la caravane de Benedetto Bufalino, caravane piscine, caravane transformée en piscine, donc on peut s'y baigner. C'est plutôt axé, on a interprété ça comme un été qui se prolongeait, quoi. C'est vrai qu'on est autour d'un peu du loisir, des vacances, avec ces architectures, la caravane piscine...
Après.
après, dans le moulin, là, on représente toutes nos éditions, les choses qu'on a fait avec des artistes, des livres, des publications. Il y a des photomontages de MC Salo, qui est Jean-Paul Michel, qui fait partie du crew Stoop & Flip, le groupe de musique. Ça fait longtemps qu'il fait des compositions aussi, non sonores, mais plastiques. C'est la première fois qu'il les montre. Ça aussi, souvent, il y a pas mal d'artistes qui ont de pratiques musicales aussi dans les plasticiens. D'ailleurs, on avait fait une quinzaine en invitant des artistes qui avaient une pratique musicale. Donc, ils étaient venus jouer de la musique. Pour le coup, c'est plutôt un musicien, mais il était aux arts déco avec moi en graphisme. Et voilà, et c'est une pose plastique comme ça, donc il était plutôt heureux de le présenter.
Alors, en fait, il s'agit d'une série de photomontages que je pratique depuis des années, et avec ce passé récent un peu compliqué, j'ai fait que ça, parce que je fais aussi de la musique. Le but premier, c'était d'éditer un catalogue qui existe, là, en démonstration. Mais vu que Nicolas m'a invité à exposer, j'ai repensé les photos pour qu'elles soient exposées et qu'elles soient vues de près comme de loin, de différentes manières. Donc de loin comme une impression visuelle, et puis de près on se rapproche et on voit les détails. Et donc le thème, c'était aussi en partie pour promotionner un groupe auquel je participe qui s'appelle Tata Poum. Le principe, c'était de prendre une voiture et de mettre le nom Tata Poum à la place. Comme je sais pas si tu as entendu tout à l'heure, je parlais d'un voyage en Côte d'Ivoire où j'avais vu la voiture d'Alpha Blondie avec écrit Alpha sur la plaque, à la place du numéro de plaque. Et ça m'a donné l'idée de ça, de mettre le truc un peu mégalo, de mettre le nom d'artiste sur sa plaque.
Qui est du coup
Tata Poum. Tata Poum.
Du coup, c'est pas MC Salo, ça.
Oui, bah MC Salo, c'est mon nom à moi, mais Tata Poum, c'est le nom du groupe que j'ai. Donc voilà, c'est un peu le but au début de ces photomontages. Et puis, je me suis pris au jeu d'en faire des plus conséquents, des plus fouinés, que j'ai agrandi, qui avait cette possibilité d'être agrandi. Et qu'en fait, ces images qui étaient un peu pour la promo, toutes seules ne fonctionnent pas bien. Et elles ont commencé à fonctionner d'être en mosaïque aussi, voilà, du fait qu'on m'ait invité à exposer, parce que je n'avais pas trop pensé à cet aspect-là, quoi.
Mais tu l'avais pensé en format édition.
Oui, il y a un peu l'aspect mosaïque sur la mise en page du catalogue. Et puis les Big Jim. Ah, Big Jim, c'était la marque Mattel. C'était des jouets pour les enfants.
Ah oui, c'est des figurines, quoi.
Des figurines, un peu comme il y a maintenant. C'est un peu comme Barbie, quoi,
ouais.
pour les garçons, plutôt.
Quoi.
Et c'est vrai que ça n'existe plus trop. C'est un peu les souvenirs d'enfance, quoi. Et c'est aussi par manque de moyens de faire poser des gens, prendre en photo. Voilà, c'est aussi... beaucoup de photos viennent d'Internet. Le minimum de moyens possible d'arriver à faire quelque chose. D'un point de vue formel, il y avait aussi un travail sur les fausses perspectives qui pourraient un peu faire penser à certains tableaux du Moyen-Âge. Mais sans forcément chercher à les reproduire. Hein. C'est aussi le hasard et les contraintes de certaines photos qui te mènent à certains résultats. Et aussi beaucoup de photos issues de Google Maps qui ont une espèce de vision fisheye et de mélanger les différents points de vue optiques qui donnent ce résultat un peu perturbant par rapport à la perspective. Par exemple, cette Porsche, j'ai l'impression qu'elle bondit. Voilà, de jouer sur ça, quoi. C'est sur des fausses perspectives, quoi, avec des éléments réels, quoi, issus de la photo. Que ça devienne un peu du dessin. Et aussi un vernis mat pour jouer là-dessus, que ça rappelle un peu moins la photo.
Parce que du coup, il y a des personnages, il y a des photos de vraies personnes en bas à droite, et il y a aussi plein d'autres.
Moi,
ça c'est toi du coup.
Ça c'est moi. Ça c'est mon camarade de Tata Poum, okay. Holy Boy.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain. Et en écho aux œuvres de Max Salo, on va faire une petite pause musicale sur Tata Techno du groupe Tata Poum.
The best band in France. With Tata Poum you can dance all the time. No wasting time with us. In the universe we shine as an angry meteorite.
Tata Techno.
Even Flash Gordon is one of our fans. He met us with Zarko the Bastard last year at 5 o'clock. Yeah, Saturn, you know.
Hey, bonsoir.
Tata Techno.
She's Golo by Don Ramos Dinero. Bet bet. De la stampa of the fun perhaps you land on une but non trop of a calouche
Tata Techno
Stompica sous plage gelée
C'était Tata Techno du groupe Tata Poum. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain. On découvre le parcours d'art contemporain de Piacello Radieux en compagnie de Nicolas Hérisson et des artistes qui exposent pour la quinzaine radieuse jusqu'au 17 octobre.
Ensuite, dans l'espace Le Corbusier, il y a Olivier Vadreau qui présente une maquette et un plan qui est en cours, comme un plan de montage en fait, un projet de cabane minimum. Le Corbusier avait fait la voiture minimum et là il repart sur l'habitat minimum, hein, y dormir, y manger, y travailler en gros.
Là c'est plutôt l'espace qui est consacré au projet de Le Corbusier, prévu de village coopératif pour piasser, ouais. De ferme utopique, etc. Donc avec les maquettes, le dessin, des planches didactiques, des céramiques de Robert Bézard. Du coup, comme c'est dans l'espace un peu consacré à l'architecture et que nous, notre projet, c'est un projet architectural, on s'est installé là. Moi, c'est un projet, j'avais jamais mis les pieds à Piacé, je connais le lieu de réputation. Moi, je suis installé en Bourgogne et en fait, depuis l'an dernier, j'ai travaillé pendant un an avec des étudiants de l'école des Beaux-Arts de Toulon en design sur un projet juste après le confinement. Voilà, c'est le moment où on a fait tous 300 fois le tour de notre chambre, etc., de les faire réfléchir sur l'idée d'un habitat minimum. Du coup, on a travaillé ensemble sur l'idée d'une cabane minimum, l'idée du cabanon de Corbu, d'où la présence ici, cabanon à Roquebrune-Cap-Martin, mais aussi de Henri-David Thoreau. Enfin, la cabane, c'est toute une histoire de l'architecture. C'est aussi une figure qui est très souvent convoquée par les théoriciens de l'architecture, la cabane des origines ou alors les manifestes d'architecture. On voit souvent cette figure de la cabane. Et l'idée, c'était pas tant de les faire travailler. Donc, ils ont d'abord tous travaillé sur une cabane, chacun à l'heure, et puis ensuite, on a essayé de synthétiser, de rassembler l'ensemble des bonnes idées, peut-être qui étaient présentes, pour essayer de produire. Alors là, c'est des prémices qui sont montrées ici, une maquette et puis une planche avec les plans, commencer à être au clair. Et l'idée, c'est de proposer au final, dans quelques mois, un mode d'emploi pour que quiconque puisse se fabriquer sa cabane à partir de matériaux simples, facilement trouvables, donc des sections de bois usuelles, des charnières, deux bâches. Enfin, l'idée, c'est aussi de travailler, de revenir. Alors souvent, on fait cette métaphore pour la cuisine, par exemple, qui est de dire il ne faut pas consommer de matériaux transformés, il faut revenir à des produits simples qu'on transforme soi, etc. En fait, l'architecture, c'est un peu pareil aujourd'hui. L'architecture, quand on construit un bâtiment, en fait, on se retrouve à utiliser que des solutions industrielles. Les murs sont fabriqués par tel groupe, le sol est fait. En fait, on se retrouve à utiliser ce que les architectes appellent des produits du catalogue. C'est une architecture de collage de solutions industrielles. Et donc, l'idée, là, c'était plutôt de revenir à des matériaux bruts, quatre pierres, des planches, moins de produits industriels possibles, et que l'intelligence de conception soit au service de la facilité de construction après. Donc, l'idée, c'est de faire une cabane qui puisse être montée par deux personnes en deux jours. Donc c'est une dimension modeste, c'est 6 mètres carrés, donc c'est pas le tonneau de Diogène, mais c'est un peu plus grand, mais c'est pas non plus très loin. Et donc c'est pas tant une cabane pour habiter que pour aller se réfugier un week-end ou quelques jours. Donc la maquette est présente dans l'expo, maquette au 1/10, où c'est construit un peu comme l'image que peut-être les gens auront le plus en tête, c'est les maisons du Far West où on construit un sol, après on construit des cloisons à plat, on les dresse et on les visse ensemble, on ferme et puis ensuite on fait l'étanchéité avec la toiture. Là on est au moment où on est en train de finaliser le mode d'emploi. Il nous reste quelques détails, notamment sur les ouvertures, parce que c'est toujours un point assez critique sur l'étanchéité, etc. Et puis on devrait construire un exemplaire de cette cabane à échelle 1 au début du printemps prochain, en mars, pour qu'elle soit utilisée toute la saison prochaine. Et puis ensuite l'idée, c'est que... Alors, je sais pas encore, on ne sait pas encore vraiment quelle sera la forme du mode d'emploi. Ici, aujourd'hui, c'est un poster. Mais peut-être que la solution la plus simple, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, ou peut-être que ça sera un tuto, ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est qu'après, les gens s'approprient et qu'un peu partout, on voit des gens construire cette cabane et puis en faisant des variantes. Voilà, on va d'ailleurs proposer quelques variantes dès le départ. Mais ce qui a guidé le projet, c'est de simplifier, en fait, c'est de s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément bricoleurs et donc de simplifier au maximum le nombre de gestes, le nombre de coupes, pour qu'à partir d'une somme de matériaux et de débits que les gens rassembleront, après, le travail soit très rudimentaire et très simple.
Parce que là, c'est deux jours, deux personnes. Ouais. Mais, et du coup, vous avez réussi à estimer un budget
Le budget, il évoluera en fonction de à qui les gens s'adressent pour récupérer les matériaux. Si on va directement à la scierie ou si on va dans un marchand de matériaux, c'est pas pareil. Mais on aimerait que le budget soit en dessous de 2000 euros. Il y en aura une construite ici. Normalement, il y en aura une construite aussi en Corse et puis une autre en Bourgogne. Donc normalement, l'année prochaine, il y a déjà trois cabanes qui apparaissent à trois endroits différents. différent, en espérant que derrière, les gens s'accaparent ce projet et puis s'en saisissent pour construire la leur aussi. Quoi.
Elles vont être installées où exactement? Dans des forêts dans...
C'est des personnes à qui on en a parlé et qui ont décidé de construire sur leur terrain pour l'instant. Ici, ce sera le seul endroit où ce sera public, mais on en construira une à Toulon, peut-être pour dans le cadre de Design Parade, qui est la manifestation de design de Toulon. Mais pour l'instant, on essaie d'aller au bout du projet de mode d'emploi et puis après, dans un deuxième temps, si le mode d'emploi réussit, ce que j'espère, elle pourra vivre et puis il y aura peut-être des versions aussi successives. Et en fait, ce qui a guidé le projet de l'aménagement de l'espace, c'est que la superficie est assez modeste, c'est presque celle d'une caravane, 2 par 3, 6 mètres carrés. La logique a été vraiment une logique constructive, d'abord construire un plancher, sur ce plancher ramener les enveloppes, construire un plafond et ensuite seulement faire un toit. C'est-à-dire qu'on raisonne par étapes de manière à ce que tout soit manipulable par deux personnes, qu'il n'y ait jamais des éléments trop grands, trop lourds, et qu'il n'y ait pas besoin de matériel autre que quelques outils et des mains. Quoi. Et que tout soit portable aussi et manipulable par deux personnes. Ensuite, le deuxième point qui nous a guidés, c'est la relation intérieur-extérieur. C'est-à-dire que quand on est assis dans une petite cabane, on est assez peu souvent debout, puisqu'en fait, on est debout pour marcher. Donc on est soit assis sur le lit, soit assis sur une chaise ou sur la table qui sert à déjeuner. Et du coup, les baies, elles sont toutes un peu plus basses. Elles ne sont pas prévues pour l'œil à hauteur debout. Et même la porte d'entrée, elle ne fait pas 2 mètres comme une porte d'entrée normale. En fait, le seuil est situé à 40 cm. Donc en fait, on peut s'asseoir sur le seuil comme on serait assis sur un banc. Et puis la porte d'entrée, elle ne fait que 1,25 de haut. Donc on rentre dedans comme on rentrerait dans un fourgon, dans une camionnette ou des choses comme ça. C'est ça qui crée des rapports d'échelle un peu étranges dans l'objet et qui crée sa singularité. Et de la même manière, pour s'asseoir et déjeuner ensemble, par exemple, on peut s'asseoir soit à deux côte à côte, comme on le ferait sur un bar, par exemple, près d'un bar, et puis on regarde par l'extérieur, ou alors il y a une personne qui est assise sur une chaise dedans, et puis celle qui est dehors, le regard est à la même hauteur, mais la personne dehors, elle est debout, elle. Donc il y a des rapports comme ça entre... comment se situe le regard entre dedans, dehors, et c'est ces jeux assez simples. Et au niveau du confort, l'intérieur, c'est entre le camping et la cabane, il y a une porte qui est en textile, et de la même manière, dedans, il y a 3 parois qui sont recouvertes de feutres, avec des baguettes de bois, comme solution qu'on trouve par exemple dans les yourtes. Et puis il y a une des cloisons, elle, qui est couverte en bois, parce que c'est celle où on trouve les rangements, les placards, la table. Les éléments mobiliers font partie, en fait, de la conception, le mobilier est intégré. En fait, à la conception de l'espace. Et c'est juste posé sur 4 plots, ce qui fait qu'il n'y a pas de fondation, ce qui fait aussi qu'en termes de permis de construire, etc., puisqu'on on s'est rapproché d'un spécialiste, on peut imaginer qu'elle s'installe provisoirement, sans démarche administrative lourde, pour un temps, et puis après on peut la démonter, la déplacer ailleurs. Voilà. C'est classé habitat de loisirs, après, en fait. C'est comme une caravane ou un mobilhome, et du coup, c'est pas les mêmes règles d'urbanisme. Donc, quand on attaque le sol et qu'on construit des fondations, on est obligé de déposer un permis de construire, etc.
Merci.
Ben, je vous en prie.
Ensuite, on a au Cube d'Or les archives de Maroussia Rebec et la marque de mode Andrea Crew qui a travaillé qui au début de l'upcycling, hein, recycler les vêtements pour en refaire des vêtements. Et en fait, elle arrête sa marque à Paris et sa boutique. Elle va continuer une pratique plastique, mais elle garde le nom d'Andrea Crew. Mais en fait, elle donne tout son fonds à Piacé.
Du coup, on vient de retrouver Andrea Cruz. Mm-hmm. Bonjour Andrea.
Salut Marine.
Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la pièce que tu présentes? On est à Piacel Radio, donc devant, c'est une ancienne boucherie, c'est ça?
Ouais, donc là, nous, on a installé notre fonds de recherche de 18 ans de la marque Andrea Cruz dans la boucherie. Pour l'instant, c'est une installation de carton, parce qu'on n'a pas installé le shop, qui est une sorte de référence à la boutique Prada à Marfa, je ne sais pas si tu vois, donc une boutique de luxe au milieu du désert. Nous, on fait une boutique créateur au milieu de nulle part, si je peux appeler comme ça ce coin. Donc là, c'est étape 1. On a transporté le fonds créatif depuis Paris jusque dans les cartons et on montre les cartons. Donc c'est une espèce de concept boutique à activer. Et à moyen terme, il y aura le shop et il y aura l'atelier de couture avec des machines à coudre. Alors, nous, on a une pratique très artisanale. J'ai mis des posters au sol, comme ça on voit un peu... ça excite un peu sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur des cartons. Et donc ce qui est marrant, c'est que tu passes comme ça sur la nationale et qu'il y a cette fausse boutique, une boutique à activer, une boutique en devenir, une installation minimale, un peu concept. Mais disons qu'en 2022, le 17 septembre 2022, on en changera la forme, ouais.
Ok, oui, donc c'est sur du assez long terme quand même.
Ouais. L'idée, c'est vraiment d'amener un fond ici, quoi, de partager avec l'asso ce fond créatif. J'ai beaucoup travaillé à Piacé. Je faisais des performances que j'appelais le Burning Bog, où on construisait un grand totem en bois recouvert de feuilles de magazine auquel on mettait le feu. Donc c'est vraiment une posture aussi sur la mode et la consommation contemporaine, et de proposer une nouvelle esthétique au sens d'une nouvelle politique. Donc ça, c'est un peu le projet de fond, Andrea Cruz, qui se manifeste par des vêtements upcyclés. Donc moi, ma spécialité, c'est l'upcycling depuis 18 ans, je fais ça. C'est vrai que s'il y a 18 ans, personne ne comprenait comment tu pouvais être entre art, mode et écologie. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même rentré dans les mœurs. Par exemple, il y a plein de marques qui font de l'upcycling. Donc moi, justement, j'ai envie de passer à un autre stade. D'où le fait d'être ici, de constituer un fond de créatif, de recherche, de forme, et de passer à une nouvelle étape dans l'histoire de la marque.
Toi, tu te décris comme
artiste-entrepreneur, avec une spécialité mode et transition. Ça veut dire que quand même, j'inscris ma pratique dans, oui, une construction économique des choses. Je monte des projets, moi, en fait. Le vêtement est mon médium, mais plus qu'une marque de mode, et donc le vêtement comme un produit consommable. Je m'intéresse au vêtement dans sa dimension historique, sociologique, émotionnelle. Et donc, j'essaie de créer quelque chose avec ça. Pour me resituer, moi, j'ai fondé la marque Andrea Cruz il y a 18 ans, comme un projet artistique entre art et mode. Au bout de 18 ans, l'idée, c'est de dématérialiser et de voir comment on peut se radicaliser.
Merci beaucoup.
Bien. Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
À côté, il y a une projection de Caroline Mesquita qui a fait un don d'une pièce à l'asso qui se trouve en face du cimetière, qui est un gros verre en métal. Et donc le film est en écho à cette pièce qu'elle avait montrée au Portugal. Voilà, donc le film est projeté là. Et puis il y a Marc Léchelier qui a une pièce aussi en face du cimetière, qui est une sorte d'architecture construite avec des parpaings, qui a été construite en fait en 5 jours. C'est un challenge parce que c'est aussi filmé. C'est une œuvre qui a été mécénée par Saumon. Saumon, désolé. J'ai vu le pantalon. Les couleurs Saumon, le pantalon. Par Salomon. Les vêtements de ski qui maintenant font des chaussures très à la mode de marche. Et Salomon a financé donc cette œuvre. Donc ça a été aussi shooté, filmé pour servir pour leur marque. Voilà, c'est une belle pièce qui se trouve aussi en face du cimetière dans un espace, un petit parc de sculptures.
On dirait genre les décombres d'un immeuble ou alors un immeuble, enfin une partie d'un immeuble en construction, mais plutôt les décombres parce qu'il n'y a rien d'autre autour.
Au parpaing, un hommage au parpaing.
Donc voilà, ça fait quand même des choses qui viennent s'ajouter comme ça au parcours, qui viennent se greffer et qui permettent d'être dans des lieux et de sortir et d'aller voir d'autres choses.
Donc là, la quinzaine radieuse 13e édition, c'est les dates d'exposition.
18 septembre, ça dure un mois, jusqu'au 17 octobre. Ça se termine avec les journées nationales de l'architecture, auxquelles maintenant on participe depuis 2 ou 3 ans. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des choses à voir au niveau de l'architecture. Et pour le coup, on avait décalé aussi, parce que c'était intéressant de terminer avec ces journées de l'architecture. Ça fait un petit...
Du coup, vous ouvrez sur les journées du patrimoine et puis vous fermez sur les journées de
l'architecture. Voilà, c'est ça. Entre les deux, il y a un mois. C'est ouvert les week-ends et sur rendez-vous. Vous en semaine.
Et si on veut suivre les actualités de la quinzaine ou de Piacé le Radieux, ouais. Où est-ce qu'on peut aller voir ça?
Alors on a un site internet, hein, piacéleradieux.com, je crois qu'il est assez complet. Puis on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
Très bien, du coup j'invite les auditeurs à aller regarder tout ça sur le site et puis de se déplacer à Piacé, oui. Et venir découvrir un peu l'ampleur de tout ce projet. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis moi je vais aller poursuivre ma petite visite.
Merci.
Merci, au revoir.
J'ai juste dit à Nicolas, voilà, moi j'ai fini mon diplôme. C'est des pièces qui ont un rapport à l'architecture en général. Là-bas, l'espèce de porte, l'arche, j'ai essayé de reproduire les émotions plutôt les sensations que mon corps traversait quand j'étais devant des architectures soviétiques. Parce que je voyage pas mal et je vais prendre en photo pas mal d'architectures soviétiques. Et de ce fait, en fait, à chaque fois, je m'en prends quand t'es devant un immense bâtiment en béton. C'est assez oppressant. Et du coup, j'ai essayé de retraduire un petit peu cette idée-là. C'est une arche, c'est une porte en U avec des pointes de diamant, donc des petits pics sur toute la surface. C'est des gros pans de bois qui font à peu près 8 cm qui sont reliés par une structure derrière.
Du coup, ça fait face à une autre partie,
ça
une
fait
autre
face
installation.
À une autre installation. Enfin, c'est assez évocateur. J'ai essayé de reprendre la colonne sans fin de Brancusi. Et moi, l'idée, c'était de, je voulais la pencher en fait. On va pas me demander trop pourquoi, genre j'ai voulu la pencher. Genre c'était assez instinctif. J'ai fait cette pièce de façon assez détachée par rapport à l'héritage de Brancusi. C'était pas une façon de remettre son travail en question. C'était simplement quelque chose qui se juxtapose un peu à ce qu'il a fait de moi, ce que j'ai vu. Ah oui, ce qui est important aussi, c'est la façon dont c'est accroché. Je les ai accrochés avec des serre-joints, parce que j'ai un rapport avec les outils dans mon travail et dans mes espaces d'accrochage. Les outils, à la fois, ils me sont utiles dans l'atelier quand je travaille. J'essaye de donner deux utilisations possibles à un outil. Puis du coup, cette pièce-là, je suis allé l'année dernière en Bulgarie pour aller prendre en photo des monuments soviétiques. Et donc ça, c'est un monument qui se trouve dans le village de Gourgouliat. C'est un énorme monument qui est en espèce de brique. C'est assez complexe comme matériau. Surtout que ça s'est effriché, du coup, j'arrive pas trop à savoir c'était quoi l'origine. Entre du béton et de la brique, j'ai repris la forme basique du monument et j'ai essayé de la découper en panneaux, tu vois. Et j'ai utilisé du moabi, c'est un bois qui est imputrescible et qui est assez onéreux. Il a un grain qui est assez intéressant, la fibre aussi. Je voulais faire une contradiction par rapport au matériau de base qui est utilisé dans la construction. Mais pour autant, il y a des rapports avec au niveau de la couleur. Tu peux rentrer à l'intérieur, toute la partie que tu vois là, elle n'existe pas dans le bâtiment. C'est pour ça que je l'ai fait de façon beaucoup plus brute et sans détour au niveau de la finition.
Et du coup, ton prénom ?
Louis Lepère.
Bah, merci beaucoup.
Alors, un lieu un peu étonnant en France, parce qu'on a un endroit où il y a trois bulles sicoques l'une côte à côte. Ça va être assez rare maintenant.
Des bulles sicoques, vous pouvez préciser.
Bulles sicoques, qui ont été dessinées par un architecte qui s'appelle Jean-Benjamin Manval dans les années 70, fin des années 60, construite au début des années 70. C'est de l'habitat de loisirs, ça a été construit pour ne pas avoir besoin de demande de permis de construire, donc c'est un type de surface qui est très réduite. C'est une architecture qui se voulait mobile à l'époque, c'est-à-dire on peut démonter facilement la bulle sicoque et la reconstruire ailleurs si on veut. Donc c'est ce qui s'est passé pour celle-ci, parce que celle-ci vient de la région rouennaise, celle-ci vient de Bretagne et celle-ci vient de chez un collectionneur sculpteur, Iba Hernando Reina, qui est d'ailleurs artiste ici. Donc c'est des architectures modulaires faites avec donc six coques en plastique. Hein, c'est aussi l'intérêt de ces architectures-là, c'est que ces architectures qui sont à la fois associées au béton pour le pied, au métal pour l'étoile qui les supporte, et puis au plastique, donc on est dans l'architecture des années 70 en plastique. Le choc pétrolier arrive, et donc ce qui coûtait pas trop cher à produire dans les années 70 devient trop difficile à produire, et donc ça, malheureusement, ça n'a pas de succès commercial escompté, et elles disparaissent un petit peu, voilà, il y en a eu très très peu de construites. Et aujourd'hui, ce sont des objets reconnus, voilà, par les architectes et par l'histoire de l'architecture. Elles n'étaient évidemment pas dans cet état-là quand on les a récupérées, elles ont nécessité pour certaines 2 ans et demi de travail de restauration, on a refait fabriquer des baies. Il y en a une qui va être comme une maquette de ce qui était la bulle sicoque à l'époque, réaménagée avec le mobilier qu'on peut aller voir à l'intérieur. Une qui deviendra un lieu alternatif peut-être pour une librairie, enfin on ne sait pas trop encore quelle option. Et puis celle de Iba et Hernando Reina qui elle est considérée par l'artiste comme une sculpture et se l'est réappropriée comme sculpture. 3 fonctions différentes de la même bulle sicoque, voilà, qui est le même objet. C'est des objets assez symboliques, enfin pas symboliques mais assez iconiques de la période, hein, puisqu'on est dans l'architecture bulle, on est dans la maison Barbapapa, on est dans des références comme ça, qui sont des références un peu hippies, voilà, un peu, on fait de la rondeur, où la modernité c'était de l'angle droit. Et par contre c'est très intelligemment fait, très intelligemment construit, assez simple en fait de conception, mais très efficace d'un point de vue visuel, quoi. Ça marche tout de suite, quoi. On a évidemment le très beau Tétrodon, une œuvre qui a été créée par un groupe d'architectes qui s'appelle la UA à l'époque, qui est pareil de l'habitat de loisirs, qui est un petit peu la même idée de départ, faire de l'habitat mobile, pas trop cher, avec un nombre de mètres carrés qui permet de le poser partout sur un camping, etc. Aujourd'hui on appelle ça des mobilhomes ou des algéco, quoi. La particularité du Tétrodon, c'est que le volume principal, c'est celui d'un container en fait, hein, on reconnaît tout à fait la structure métallique du container, et ça s'appelle tétrodon parce que ça fonctionne comme les poissons tétrodons qui se gonflent, chaque volume s'extrude de l'intérieur vers l'extérieur pour former des pièces, et une chambre, salle à manger, cuisine, voilà. Et quand on a fini en fait, on rentre tout à l'intérieur et puis le camion vient chercher le tétrodon et on l'emmène. Là aussi, architecture qui mêle à la fois des plots en béton, le métal et le plastique, même histoire que malheureusement que la bulle sicoque, que le plastique devient un peu plus cher et le tétrodon est moins fabriqué. Il y a plus de tétrodons qui ont été fabriqués que de boulsicoques. Ça reste un objet aussi très iconique de l'époque, avec un dessin beaucoup plus raide. Hein. On est dans une architecture beaucoup plus anguleuse, etc. Mais c'est un bel objet, quoi, d'un point de vue architectural.
Trois bulles.
Un parc à bulles.
Un parc à bulles, voilà. D'à partir de Claude Parent, mais ça a été fait en fait par Rem Koolhaas pour la Biennale de Venise 2014. Alors c'est une histoire un peu étrange. Rem Koolhaas pour la Biennale de Venise veut faire tous les éléments d'architecture et il veut faire notamment les rampes pour les handicapés. Et en cherchant des architectes qui ont travaillé sur la rampe, il s'aperçoit qu'il y a un architecte français qui s'appelle Claude Parent qui a fait tout un travail sur l'oblique dans son architecture, c'est-à-dire le refus du rapport du sol à l'angle droit. Nous, on vit quotidiennement avec un rapport, il y a un sol et un mur qui se dressent devant nous. Et lui, il dit au lieu de faire ça, on va faire ça. On va faire des angles. Il ne le dit pas parce que c'est un rigolo qui s'amuse, il le dit parce que comme ça, le corps se reconscientise, on redécouvre des sensations, on a plaisir à arpenter, à se retenir, à marcher, on redécouvre la spatialité, on redécouvre une projection du regard. Et il travaille avec un philosophe et maître verrier qui s'appelle Paul Virilio, et tous les deux, ils inventent la fonction oblique, et ils créent une agence qui s'appelle Architecture Principe, où ils vont essayer de développer et de promouvoir cette question de la dynamique, d'une nouvelle dynamique d'appréhension de l'architecture. Là, on est dans les années 60, 66. Claude Parent et Virilio vont se séparer, mais Parent va toujours continuer à promouvoir l'idée de la rampe, et donc il décide de lui, pour montrer que c'est valide comme expérience, dans son appartement de Neuilly, de vivre à l'oblique complètement. Donc tout son appartement est aménagé en oblique. Ça c'est Claude Parent, ça c'est Nad qui est décédé il y a 3 semaines. Et Carade, qui est décédé il y a 15 jours. Il est mort en 2016. Il se trouve que quand Koolhaas veut faire l'expo à Venise, la Biennale de Venise, de Parent, il cherche des documents sur un centre commercial, qui est le centre commercial de Sens, dans Lyon. Et ce centre commercial est une des rares architectures de Claude Parent qui existe vraiment et qui a été faite en oblique. Il y a Notre-Dame du Banlay et Sens qui sont en oblique. Il tombe sur moi, donc il me contacte, puisque moi j'ai fait classer monument historique le centre commercial de Sens. Et il me demande des images, en fait, il me demande des photos. Donc, évidemment, quand Rem Koolhaas vous appelle le matin, vous lui donnez ce qu'il veut. Donc je lui ai donné ce qu'il veut. Et puis, donc je suis allé à Venise voir la reconstitution. Donc ça, c'est une reconstitution à l'exact, à l'échelle, d'un des morceaux de l'appartement de Claude Parent. Donc Rem Koolhaas, à la Biennale de Venise, c'était exactement ce morceau-là qu'on voyait. Et les gens pouvaient arpenter. Moi, je me pose la question très bêtement. Comme j'avais envie de faire une exposition avec M. Parent, j'envoie un mot à Koolhaas disant « Mais qu'est-ce que vous faites de la rampe après Venise ?» Et il me dit « Rien, si vous voulez, vous pouvez la récupérer. » Donc on a exposé cette rampe-là à l'École des Beaux-Arts du Mans, avec toute une exposition hommage à Claude Parent. Et puis quand l'exposition a été finie à l'école, Nicolas a récupéré la rampe et il a décidé de lui donner cet écrin, puisque là il a tout, faut imaginer cet endroit là, avant c'était pas du tout comme ça, il a tout refait, on a reposé un IPN, etc., pour qu'il y ait un espace entièrement dédié au travail de Claude Parent, que les gens puissent arpenter, expérimenter les rampes. Donc voilà, ce qui est intéressant dans la fonction oblique, c'est ça, c'est qu'en fait le mobilier n'existe plus, puisque le corps est totalement libéré des questions spatiales, et donc le plan se soulève, le sol se soulève, fait des petites alcôves, fait des pentes, et on se couche directement en fait sur le sol devient mobilier. Et la fille de Claude et Nad Parent, Chloé Parent, raconte qu'enfant, elle jouait, c'était un ravissement pour les enfants, de courir avec les voisins, venaient tout le temps jouer aux billes, etc., dans l'appartement, parce qu'ils couraient, enfin, c'était extraordinaire comme expérience. Malheureusement, l'expérience n'a pas duré très longtemps, et Claude Parent a refait faire son appartement identique quelques années après.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain. Cette émission a été concoctée par l'association MPVIT. On est ravis d'avoir pu vous présenter Piacé le Radieux, Bézard le Corbusier, et on espère vous avoir donné envie d'aller découvrir ce parcours d'œuvres proposé pour la 13e édition de la Quinzaine Radieuse. Nous remercions tous nos interlocuteurs et interlocutrices pour leur présentation. Benoît et Nicolas Hérisson, qui sont les porteurs du projet, et David Liaudet, bénévole de longue date, qui nous ont accueillis chaleureusement. Ainsi que les artistes qui étaient présents et présentes, Marussia Rebec, Olivier Vadreau, Louis Le Père et MC Salo. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 2 mois sur les ondes de Jet FM 92.2 pour continuer à voir avec les oreilles.